Voici donc mon exposé du mois d'août qui traitera de Saint-Ignace et des exercices. Saint-Ignace a joué au XVIe siècle un rôle analogue à celui de Saint-Dominique au XIIIe siècle, donné à l'Église de nouvelles formes d'apostolat sans pour autant renier les anciennes. Les bénédictins sont toujours présents. Les jésuites ont préconisé une méthode qui a la foi pour lumière et la raison comme moyen, comme saint Thomas, mais avec une méthode particulière pour conduire les âmes. De fortes discussions avaient lieu au sujet de la Vierge Marie. Un théologien qui critiquait le Salve Regina et l'expression Mater Misericordiae en disant que la Vierge n'est pas la vie, elle est en Jésus qui a dit « Je suis la vie ». Saint Mérone, qui fut un des premiers à suivre Saint Ignace, répondit « Dieu est la lumière ». La Sainte Vierge a communiqué la vie. Elle continue à le faire, à être le canal par lequel passent toutes les grâces. Marie est notre espérance. Dieu est la source, Marie la rivière. Saint Ignace a pris comme règle la soumission au pape. Ce fut d'ailleurs l'objet d'un quatrième vœu. Il chercha toujours à défendre ce que l'Église défend, à ne pas choisir le sens obscur, ne pas chercher à discutailler sur des détails sans importance, ce qui est habituel de nos jours, mais chercher le sens le plus vrai. Saint Ignace fut rejeté, pour ne pas dire haï, de tous les serviteurs des Lumières, on dirait plutôt des ténèbres, tels que Voltaire et Michelet, qui se complaisaient dans des élucubrations strictement personnelles, sources inépuisables de vanité et d'orgueil. Saint Ignace voulait tout faire ad majorem Dei gloriam. C'est pourquoi les Lumières l'accusaient de vouloir mettre la main sur le trône, les chaires de prédication et surtout sur le confessionnal auquel ceux qui veulent se passer de prêtre ne peuvent rien comprendre. Il prend le confessionnal comme un moyen de pression sur les âmes, alors qu'il n'est là que pour les libérer de la pesanteur de leur imperfection. En 1521, Saint Ignace était un jeune officier qui défendait Pampelune contre les Français qu'il assiégeait dans le cadre d'une guerre contre Charles Quint. Avec quelques soldats, il défendait un château. Le groupe cherchait à abandonner la place, mais le jeune homme demeura sur la brèche. Il fut blessé grièvement aux deux jambes, l'une par un obus, l'autre par une pierre. À 30 ans, il se trouvait infirme, comme cloué sur place. Il fut fait prisonnier par les Français, qui avaient remarqué sa bravoure, le traitèrent fort bien, puis le renvoyèrent dans sa famille dans le Pays Basque, à la frontière française. Il subit de très nombreuses opérations. On taillait dans ses veines en tirant et retirant sa jambe. Son courage était très grand. L'anesthésie n'existait pas à l'époque. Ses jambes finirent par être fermées, sauf un petit os qui dépassait au-dessus du genou, ce qui le contrariait beaucoup, car il craignait de ne plus pouvoir porter ses bottes pointues à la mode, signe d'appartenance, nous dirions, au milieu du dessus du panier. Il exigea que cet os fût scié. Il dut rester ensuite alité pendant de longs mois, toujours dans la souffrance. Il passait son temps à lire des romans de chevalerie, mais on lui donna aussi deux livres d'un prieur de la Chartreuse de Strasbourg qui l'ont conduit à méditer sur le sort de l'homme. Il songeait à un retour à la cour d'Espagne, dont il avait d'excellents souvenirs. Il rêvait de faire valoir l'éclat de sa bravoure et de son héroïsme, voire à un mariage brillant, mais la lecture de Ludolphe et de Chartreux lui ouvrit d'autres horizons. Il a senti une certaine correspondance entre le courage des soldats et l'esprit de pénitence des saints. La pénitence n'est pas un but, mais un moyen. D'un naturel généreux, il voit que tout est grand pour une grande âme. Il comprit la grandeur de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui ont tout quitté pour le Christ. Il comprit aussi que la joie de ce monde s'achève souvent dans la tristesse, alors que la vie des saints débouche sur la joie. Il a vécu en quelque sorte la première étape de ce qu'il écrira par la suite dans ses exercices. Saint Ignace sentait deux esprits radicalement différents. Celui du monde, où, souvent, ce qui est faux semble beau, la dictature des apparences, sensualité, égoïsme, orgueil, on ne peut s'empêcher de penser à la société telle qu'elle est décrite par nos journalistes. est celle de la vérité, de l'esprit inspiré par Dieu. Saint Ignace parle de deux étendards, celui de Lucifer et de son clinquant, et celui de Jésus, une vie simple qui porte la joie au cœur. Le péché, le côté faux de notre vie, ne réside pas en soi dans les plaisirs de ce monde, que l'on pourrait appeler les mondanités, mais dans le fait qu'on y trouve sa fin, le but de son existence. Dans un premier temps, le fait de renoncer à un avenir brillant le remplissait de tristesse. Mais le véritable amour consiste à s'oublier pour ne se consacrer à l'être aimé, pour ne se consacrer uniquement à l'être aimé comme le fit notre Seigneur, qui a réalisé son union avec l'homme par la croix et l'Eucharistie. Saint Ignace conclut, l'homme a été créé pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et par là parvenir à la vie éternelle. Ignace maintenait Jésus dans son âme. Il ne disait pas comme Luther, le Christ a payé, nous n'avons rien à ajouter, mais comme saint Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Ou comme saint Pierre, qui suivant Jésus, demandant à marcher sur les eaux, saint Ignace résolut alors d'entrer dans pénitence après avoir écrit ses pensées sur un livre, avec des lettres d'or, par notre Seigneur, du rouge pour la Sainte Vierge et de l'encre ordinaire pour le reste. Après une longue convalescence, Ignace quitta sa maison sur une mule. Il avait une grande dévotion envers la Sainte Vierge. Un jour, il croisa d'un mort qui l'insultait, entre autres en mettant en doute sa virginité. Il ressentit une terrible envie de sortir son épée et de tuer le mort. Il hésita et s'en remit à la mule qui continua son chemin jusqu'à l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Montserrat, où il suspendit son épée, se répétant qu'il fallait suivre le chemin que Dieu a choisi pour nous. Il prit alors un rôle de pèlerin. On le vit à l'université de Salamanque et à Paris. Le chrétien est un homme pour qui ce qui est sur la terre doit avant tout le conduire vers le ciel, se rappelant sans cesse que ce que nous possédons ici-bas n'a rien de définitif. Ce ne sont que des aides pour monter sans cesse. Il avait l'intention d'aller en Terre Sainte sur les traces du Christ et de la Sainte Vierge. Il priait chaque jour. Arrivé à Montserrat, il fit une confession de profondeur. Il fit une confession générale après avoir déposé son épée au pied de Marie. Il priait tous les jours pour les hérétiques, pour Charles Quint, qui n'aimait guère Jésus par la suite, et pour Henri VIII, pour le grand Turc, pour Mélenchon, etc. Toujours malade, il se retira dans une grotte. Il relata ses épreuves dans ses exercices qu'il rédigea alors. Il connut plus vivement que beaucoup l'ennui, le découragement, puis le scrupule. Les épreuves dont Luther essaya de sortir en prêchant la justification par la foi. Il est certes très éprouvant que Dieu nous mette en face de nos péchés aux multiples aspects avec le risque du désespoir. Mais c'est bien le désespoir qui reste le grand péché, et non la crainte de Dieu, qui peut commencer dans la peur d'une punition, mais débouche normalement sur celle de lui être désagréable. Une crainte de Dieu analogue de la fiancée hésitant au cadeau à faire, du fiancé, hésitant devant le cadeau à faire, de peur que cela ne lui plaise. Je pense à une scène de Véronique, cette charmante opérette, où la jeune fiancée dit à sa tante d'examiner sa toilette en étant sévère et d'en vérifier la perfection. C'est la crainte de Dieu. L'amour de Dieu dépasse la crainte comme le soleil du ciel. Le devoir d'État reste la voie la plus sûre pour aller à la suite de leur Seigneur au milieu des difficultés de notre propre, pour prendre sa croix, celle que Dieu a choisie pour nous, en se rappelant que Jésus est le bon pasteur, le bon samaritain, la vérité et la vie. Les catholiques comptent beaucoup sur la grâce et sur le Seigneur et sur l'œuvre de Notre-Dame pour donner au Christ sa voie, celle immortelle, et que le Christ nous a donné comme mère. Elle ne peut être détachée des mystères quand elle a reçu l'Esprit. C'est elle qui nous donne le courage de marcher à la suite de Jésus. Demander ses grâces est la deuxième partie des exercices. Il faut rester sur ce chemin avec générosité, même dans la douleur, comme sur tout chemin de croix, et méditer sur les bienfaits de Dieu. L'âme doit chercher à communiquer le plus d'amour afin que l'amour divin vive en elle. Si la regarde en elle, elle ne trouve que la tristesse. En s'élevant par la méditation, elle trouve la joie. Les protestants veulent se passer de la Sainte Vierge, disant que toute grâce vient de Dieu. Certes, mais si le Christ est la source, la Sainte Vierge est le canal par lequel les grâces s'écoulent. C'est bien triste de vouloir négliger celle que Jésus nous a donnée comme mère. Disons de plus que c'est vraiment pas le moment. Voilà, je vous souhaite un bon été, et puis j'espère que nous allons en finir avec tous nos envies. À bientôt.